17h21, de retour avec la chronique de Pierre-Yves McSween. Et si vous avez entendu la chronique de Luc Ferrandez il y a quelques minutes, on parlait d'aide médicale à mourir. Et Pierre-Yves va nous en parler sous l'angle financier, l'angle des assurances. Qu'est-ce qui arrive, Pierre-Yves, quand on décide de mettre fin à ses jours, que ce soit de façon assistée, là, légalement, avec l'aide de la médecine, ou pas?
Faire attention, il y a trois situations. D'après ce que j'ai eu aujourd'hui avec des relations avec des courtiers, on me dit, un, l'aide médicale à mourir. Écoute, l'article 49 le dit, c'est très clair. On ne peut pas refuser de payer une prestation selon la loi. Donc, si vous avez l'aide médicale à mourir dans les termes du gouvernement, aucun problème, votre assureur va vous payer à votre décès ou va payer vos héritiers.
C'est pas considéré comme un suicide, non. ce qui peut être un empêchement à toucher des primes si on se suicide là hors du cadre médical.
C'est ça? Ben voilà, donc si tu fais un suicide assisté qui n'est pas dans l'aide médicale à mourir, là, on peut arriver et considérer ça comme un suicide. Et un suicide, quand on regarde dans le Code civil du Québec, ça dit la chose suivante, l'article 24-41 est clair, à moins que le contrat d'assurance l'exclue, ça prend 2 ans. Donc, 2 ans minimum entre la date de signature du contrat et le suicide pour que l'assurance soit payée. Dans le fond, ce qu'on vous dit, c'est l'aide médicale à mourir, il n'y a aucun problème. C'est comme, on voit ça comme, dans le fond, que c'est pas toi qui t'es tué, c'est la maladie qui t'a tué, t'as juste devancé la mort. Tandis que le suicide ou le suicide assisté, ça pourrait être considéré comme un suicide. Et là, on voit dans la catégorie, ça prend généralement 2 ans entre la signature du contrat et le décès.
OK. Donc, si on choisit l'aide médicale à mourir, ça n'aura aucun impact sur nos polices d'assurance vie.
C'est ça selon le gouvernement et la loi, effectivement.
Parfait. C'est aussi la compréhension que j'avais de cet enjeu-là. OK. Pierre-Yves, on le sait, là, les difficultés financières du groupe Capital Média, c'est pas banal comme enjeu parce que, bon, ça va au-delà des jobs. C'est une question d'écosystème d'information aussi. Ça inclut le Soleil, ça inclut le Droit à Ottawa, le Nouvelliste à Trois-Rivières, la Tribune, par exemple, à Sherbrooke. Et là, le gouvernement Legault a annoncé qu'il n'épongera pas le déficit des caisses de retraite.
Puis c'est un peu logique. T'as une entreprise privée en faillite. Mais l'entreprise privée en faillite veut pas comme White Birch ou n'importe quelle entreprise privée qui avait un déficit actuariel significatif. Il y en a qui c'était 50% qui avait de problème dans la caisse. Ici, on parle de 25-22% de manque à gagner. Mais pourquoi avec une faillite, le gars qui rachète ou l'entreprise qui rachète devrait combler le déficit alors que c'est une dette de l'ancienne entreprise? Ouais. Faut pas oublier qu'au niveau légal, une entreprise, c'est une personne morale. Donc, une fois que la personne morale est vendue ou est éliminée pour récupérer les actifs, on n'est pas obligé, comme nouvel actionnaire, de respecter l'ancienne personne morale si j'achète juste les actifs. Oui. Et s'il n'y a pas d'offre, qu'est-ce que tu veux faire? T'sais, je pense que parce que c'est des journalistes et que c'est des journalistes qui coulent la nouvelle, on en met un petit peu plus. Tu comprends-tu? Parce que là, mais Patrick, Power Corp, on dit Power Corp aurait dû payer. Non, il y a une personne morale entre les deux. Donc, Power Corp était peut-être propriétaire, mais si Power Corp avait créé une personne morale entre les journaux et Power Corp, et que l'entité morale avait fait faillite, sans garantie de la société mère, ben c'est terminé, on aurait fermé les livres et c'est tout. Donc, faut pas penser que l'ancien propriétaire aurait eu à payer. Mais tu comprends?
Pierre, moi je pense que c'est un enjeu qui est couvert. Peut-être plus que si c'était un autre type d'entreprise, c'est vrai. Mais c'est pas pour les fonds de pension, puis c'est pas pour les conditions de travail. C'est pour la diversité de l'information au Québec que c'est plus couvert.
Puis je veux dire, le déficit actuariel, on parle du déficit actuariel.
Je comprends, mais regarde, c'est couvert. Les travailleurs disent, ou les retraités disent, c'est la faute de un puis de l'autre. C'est couvert. Mais j'ai pas vu grand monde, disons, d'un chroniqueur, d'un commentateur, déchirer leur chemise là-dessus. Puis
non, mais on fait une xième nouvelle en disant le régime de retraite, le déficit actuariel ne sera pas couvert par Québec, puis on n'exigera pas du nouvel acquéreur.
Non, mais
juste qu'on ait souligné l'idée.
C'est une nouvelle. Aujourd'hui, le gouvernement a dit on va pas le couvrir. Puis regarde, moi je vais te dire le fond de ma pensée là-dessus, et je le dis là en mettant mes gants blancs, puis en ayant beaucoup de compassion pour les gens qui vivent ça. Pour moi, ce qui est important, c'est que ces journaux-là survivent et continuent à faire de la nouvelle puis de l'information. Après ça, comment c'est fait? T'sais, mon collègue Francis Veil dans la presse a imaginé une sorte de plan de relance, puis il disait, moi, je reprends ça, là. Une des premières affaires, c'est qu'il n'y en a plus de fonds de pension. Tu comprends? Je pense qu'il y a beaucoup de lucidité. Ce qu'on veut pas, c'est que les journaux meurent parce que, tu sais, qui va aller faire de la nouvelle couvrir des conseils municipaux dans le coin de Granby, là? Il y en a pas.
Non, mais là, on mélange deux choses. Faut pas oublier que là, on parle du déficit actuariel puis qu'on parle de la nouvelle que le gouvernement ne couvrira pas. Ben, c'est même pas juste de que quelqu'un ait souligné ou ait questionné. Ça sous-entend qu'on y a pensé quand même. Ouais. Et dans n'importe quelle entreprise au Québec, si l'entreprise meurt, il y a un déficit actuariel, il n'y a pas de plan de sauvetage gouvernemental. Et ça envoie un signal aux employés.
Ils pensent aux retraités de Nortel.
Ben oui. Quand vous avez un régime de retraite qui n'est pas capitalisé à 100% et que vous êtes un syndicat, ben dites-vous qu'il faut que vous surveillez votre employeur. Il faut que vous mettiez des gens compétents puis vous payez des ressources pour questionner le comité de retraite et questionner ce qui se passe. Et à partir de là, il y a toujours un risque, sauf au gouvernement, parce que les régimes de retraite des employés du secteur public sont couverts, évidemment, par la capacité de payer du gouvernement, qui est évidemment sous-entendu financé par les fonds, les impôts. Donc, c'est un peu moins risqué, disons, que tout le reste. Mais, tu sais, j'ai parlé récemment que c'était une prison, Patrick, les régimes de retraite à prestations, parce que ça t'empêchait d'aller ailleurs parfois. C'est quand même ça aussi, mais il y a aussi des fois un risque quand c'est privé.
Tu as bien raison. Mais merci, écoute, on va te reparler demain, mon cher. Ah non, t'es pas là, mais toi, non, le vendredi. Mais non, c'est François Gagnon qui te remplace.
Tu vas te faire soigner, mais on va penser à toi.
Parfait, écoute, j'ai payé beaucoup d'impôts, fait que là, j'ai le droit d'aller me faire soigner. On te retrouve lundi, mon gars, et je vais être là, fidèle au poste, 17h27, de retour après ça, après la pause, avec les accros de la télé.